On est en train de virer fou, là.
Mathieu Bock-Côté.
Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens.
Richard Martineau.
C'est la queue qui agite le chien, maintenant.
Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas.
La rencontre Martineau Bock-Côté.
On devrait enlever ça, la rencontre Martineau Bock-Côté, et dire les pleins de marde. Alors voilà. Bonjour, monsieur plein de marde. Comment ça va?
Plein de merde, plein de merde. Exprimons-nous convenablement.
Alors, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui, Mathieu?
je voulais partir de là pour développer une réflexion sur les différentes méthodes aujourd'hui pour disqualifier quelqu'un qui vient troubler le récit dominant. Parce que Frédéric Lacroix, qui est j'insiste, c'est un type brillant. Puis on peut être en désaccord avec lui, la question est pas là, mais au moins qu'on sache pourquoi on est en désaccord avec lui, c'est un type brillant qui a renouvelé notre compréhension de la question linguistique. Un. Et là, c'est quoi? Il y a eu trois méthodes pour l'exécuter cette semaine, puis je voulais y revenir parce que c'est vraiment important. La première, c'est l'insulte grossière, pleine marde. C'est le niveau cours d'école d'un député François Pignon. Bon. OK, il y en a des comme ça. Il n'est pas donné à tous de savoir s'exprimer. Il n'est pas donné à tous d'avoir des capacités cognitives significatives. Je crois que ce pauvre député ontarien n'était juste pas capable d'aller plus loin que l'injure. Bon, c'est un bum du Parlement. Ensuite, le deuxième argument, c'était extrémiste. Extrémiste. C'est intéressant. Extrémiste par rapport à quelle norme? Parce que s'il y a un extrême, c'est qu'il y a un modéré. Puis s'il y a un modéré, il y a une norme qui serait le point d'équilibre. Puis-je savoir quel est le point d'équilibre qui permet de savoir ensuite qui sont les modérés, les civilisés, puis les extrémistes? Puis troisième, donc là, autrement dit, c'est la même méthode qu'extrême-gauche, extrême-droite, mais extrémiste de manière générique. C'est censé dire on est devant un individu dangereux. Puis troisièmement, et ça je l'ai entendu sur différentes zones, puis je me permets d'y revenir parce que ça m'apparaît important. Là, on l'a attaqué sur sa crédibilité intellectuelle en disant « Ah, c'est pas un vrai chercheur. » Comme si, c'est assez fascinant, donc il gagne sa vie autrement, mais ça fait 20 ans qu'il publie sur la question linguistique. Il a publié des travaux, un de ses livres a été primé par l'Assemblée nationale, un autre livre ensuite, il y a des travaux. Donc là, parce qu'on ne veut pas répondre à ces
arguments... Excuse-moi, je fais une parenthèse tout de suite, OK? Je fais une parenthèse et pour les fins de la discussion, comme j'aime bien dire, je me fais l'avocat du diable. Mettons, il y a quelqu'un qui se dit historien et qui arrive avec une vision de l'histoire que tu trouves erronée, toi, Mathieu. Tu vas dire, oui. La première chose que tu vas dire, c'est que tu n'es pas un vrai historien. Tu n'es pas, t'as pas tes diplômes d'historien. Tu n'es pas un historien reconnu par la profession. Est-ce qu'on peut dire ça aussi de Frédéric Lacroix en disant « ben c'est un statisticien, un chercheur amateur, comme il y a des historiens amateurs. »
On a toujours dit « chercheur indépendant ». Moi, c'est le terme que j'ai utilisé pour le présenter. Ensuite, moi, les vrais historiens, pas vrais historiens, pour être sur ce registre, je me permettrais déjà de nuancer. Parce que vu ce que devient l'université aujourd'hui, qui est un milieu corporatiste, où le principe de sélection des chercheurs, des universitaires, ce n'est plus un principe de sélection méritocratique. C'est un principe de sélection idéologique. L'université, pour être capable d'avoir, bon, premièrement, les diplômes, ensuite, les bourses qui permettent de faire carrière, le financement qui permet de s'installer dans la profession, l'embauche dans la profession, le principe de sélection, comme en tout régime idéocratique, c'est le conformisme idéologique ou la radicalisation de l'idéologie dominante. Donc, on le voit en histoire, on le voit en sciences sociales, on le voit en sciences politiques. Donc, pour être capable, par exemple, de faire carrière en sociologie à l'université, il faut pousser toujours plus loin les thèses déconstructrices et ainsi de suite. Puis, si on se réclame d'une école sociologique, moi, je sais pas, Pareto, Mosca, Monroe, Freund, qui sont d'une autre tendance, alors là, il n'y a pas de place. C'est comme ça. Je dis pas que quelqu'un peut pas tardivement se révéler lecteur de ces auteurs-là. Je dis que le principe de sélection des universitaires aujourd'hui est un principe de sélection idéologique davantage que méritocratique et intellectuel. Deuxièmement, quand vient le temps d'analyser un travail, moi, je regarde les arguments. Je regarde les faits qui me sont présentés. Et puis, même si je ne suis pas devant un historien patenté ou un démographe patenté, moi, ce qui m'intéresse, c'est voir ce que j'ai devant moi. C'est-à-dire, le propre du travail intellectuel, c'est un argument qui vient sans argument d'autorité. Les arguments, c'est voilà la thèse. Est-ce qu'elle est logique? Est-ce qu'elle est confirmée par des faits? Est-ce qu'elle répond aux contre-arguments possibles? Ensuite, que le gars, dans sa vie, pour gagner son son blé, pour gagner son pain, ben que ce type soit, j'en sais rien moi, éboueur ou peintre en bâtiment, ou que sais-je, professeur de parachutisme ou de deltaplane, m'en fous un petit peu. M'en fous un petit peu pour pas dire m'en fous beaucoup. Moi, ce que je veux, c'est le livre devant moi pour qu'on me réponde sur ça. Si tu me dis, ouais, mais t'es prof de deltaplane! Alors, je le dis en québécois, j'ai pas l'habitude de parler de même. M'en calisse. C'est pas mon sujet. Donc là, on est sur un type de technique de disqualification qui semble sophistiquée, mais qui témoigne en fait surtout de l'esprit corporatiste très fort et de cette... Parce que je connais... Dieu sait que je connais ce milieu-là, parce que j'en viens tout en lui étant plutôt hostile. C'est-à-dire, c'est un milieu qui, je me rappelle, en fait, je dirais, plus les sciences sociales se sont idéologisées, plus elles se sont prises pour des sciences dures. Je me rappelle d'un colloque quelque part début des années 2000 sur la question des droites au Canada. Et dans ce colloque sur les droites au Canada, il y avait un sociologue, un politologue, un historien. Puis là, ils s'interpellaient entre eux comme si on était à l'Académie Nobel. Vous, en tant que scientifique, sociologue, scientifique, et vous, en tant qu'historien, scientifique, et là, ça se donnait de la science, et ainsi de suite, il y avait quelque chose là-dedans d'un peu grotesque. Et j'ajoute une chose, si on veut jouer à l'argument de la science telle que consacrée, au 20e siècle, le marxisme se présentait comme une science. Et qui était hors marxisme était considéré comme anti-scientifique. Donc, balayons les arguments d'autorité et répondons aux arguments. Or, pour l'instant, je trouve que Lacroix, eh bien, on ne veut pas répondre à ces arguments. C'est ça qui est intéressant. C'est comme s'il dévoilait l'angle mort idéologique du régime. C'est comme s'il dévoilait l'angle mort intellectuel du régime. Parce que qu'est-ce que c'est, arriver avec une approche novatrice en sciences sociales ou en démographie, en philosophie politique, c'est qu'on remet en question les présupposés partagés. On dit ces présupposés à partir desquels on faisait nos enquêtes, nos études, ces présupposés ne sont plus confirmés, ne sont plus valables. Ils ont été dépassés par les événements, ils ne correspondent plus à la réalité. Donc, il faut changer nos présupposés. Puis ensuite, on peut les discuter. Donc, ce qui est central à travers tout ça, c'est les méthodes de disqualification. Puis je note une chose qui est assez drôle, c'est qu'on a décidé d'attaquer Fred Lacroix alors qu'il citait des chiffres de Statscan.
Ben oui!
Le régime ne croit pas à ses propres chiffres. Ce qui me permet... Je me permets de faire deux liens avec des événements qui sont passés en Europe qui sont assez intéressants.
Okay.
Un, tout récemment, il y a une psychologue qui est Marie-Estelle Dupont. Marie-Estelle Dupont, c'est une psychologue qui était très critique des mesures sanitaires au moment de la COVID, puis plusieurs lui en veulent pour ça. Puis elle a une perspective assez critique sur l'idéologie dominante aujourd'hui. Or, Marie-Estelle Dupont a récemment dénoncé, sur CNews notamment, l'éducation sexuelle à l'école telle qu'elle se présente en France aujourd'hui. On en parlait récemment. Elle disait notamment, le site On s'exprime, qui est financé par l'État, tout ça est vrai, explique aux jeunes de 10-11 ans comment faire des anulingus. Bon. Et là, il y a une bande de progressistes sur les réseaux sociaux qui ont dit « Fake news! Fake news! » Puis là, ils ont hurlé à la fake news tellement ça semblait inconcevable. Sauf que ce qu'elle disait était vrai, mais les partisans du régime ne croyaient pas à ce qu'il avait engendré. C'est comme ils ne croyaient pas aux idées auxquelles ils adhéraient eux-mêmes. Ils étaient étonnés de voir que ce à quoi ils adhèrent pouvait donner de tels résultats. Donc, ils ont dit « fake news, fake news, fake news ». Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a produit un document disant « regardez ces positions, comment elles sont enseignées, de quelle manière, à quel âge, et oui, c'est financé avec l'argent public ». Donc là, il y a une espèce d'étonnement. De la même manière, dans l'espace public en France, quand on met de l'avant le lien entre immigration et insécurité, certains disent « Ah, mais c'est faux, c'est faux !» Non, mais regarde, on a des chiffres devant nous. Expliquez-nous si les chiffres sont faux, expliquez-nous-le. Mais ça peut pas être vrai. Ah, ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ce qui vient troubler le récit de la diversité heureuse est apparemment faux. Donc, on est devant des gens qui ne croient même plus. T'sais, ils ont leur propre système d'appréhension du réel, Statistique Canada, qui fait un travail par ailleurs qui est pas inutile. Et là, quand les chiffres leur déplaisent, ils hurlent. Bon, s'ils étaient un peu plus intelligents, ils auraient dit autre chose que plein de marde. Mais au final, ils hurlaient à la fake news. Ils ne croient pas à ses propres chiffres. C'est exceptionnel. Donc, tu vois, on est devant un système de disqualification, un système d'attaque personnelle qui mérite d'être nommé tel quel. Puis si je me permets par ailleurs de taper aussi joyeusement sur le François Pignon, ontarien, qui s'est manifesté contre la croix il y a quelques jours, c'est que de temps en temps, comme le disait Brassens, quand on est con, on est con. Je m'excuse, je ne l'aurais pas dit s'il n'avait pas lui-même insulté d'abord, mais il faut quelquefois parler aux petites brutes dans leur propre langage.
Et le temps n'arrange rien à l'affaire, comme disait Brassens.
On est con.
mais Mathieu, ça démontre autant au Parti libéral fédéral qu'au Parti libéral provincial, ils savent plus quoi dire. Ils savent plus quoi dire face aux chiffres qui démontrent que le français est en déclin, même au Québec. Et là, je reviens à ce que Frédéric Lacroix te disait il y a quelques minutes. 4,6% des jeunes francophones à Montréal prennent le chemin de l'anglais. Et ça, c'est plus... Il y a plus de francophones qui vont vers l'anglais que d'anglophones qui vont vers le français. Ça, j'appelle ça un signe de déclin. Et face à ces chiffres-là, ils savent plus rien dire. C'est pour ça que lui, il a dit... plein de marde. Il savait pas quoi dire.
Oui, chaque fois qu'un régime... Ça, c'est notre bien. On a chacun nos obsessions, c'est la même. Moi, je vois quand un régime se décompose, quand une idéologie officielle est disqualifiée par la réalité, par les faits, cette idéologie se radicalise et ne cherche plus à répondre rationnellement. Elle cherche à exclure du débat public ceux qui osent nommer les vérités qui la contredisent. Donc, c'est tout ce qui leur reste. Parce que s'ils devaient clairement répondre aux arguments, on l'a vu récemment, ils ont sorti, à l'OQLF, une espèce d'étude bâclée que l'OQLF a elle-même dû renier quelques jours plus tard, ou à tout le moins nuancée, qui a été très sévèrement critiquée. Mais ensuite, le Parti des Autruches s'est jeté sur cette étude en disant « Enfin, on a la preuve que ça va bien à Montréal! » Et là, ça ne tenait plus, mais ils se sont jetés là-dessus comme la misère sur le pauvre monde, ou comme on aurait dit autrefois, comme la virole sur le bas clergé. Mais dans les deux cas, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des gens qui étaient tellement heureux d'avoir la possibilité d'une bonne nouvelle qui ont transformé ça en nouvelle révélation biblique. Mais c'était pas le cas, c'était faux. Mais là, ils s'accrochent désespérément à cette espèce de quart d'étude pour dire non, ça va mieux qu'on le pense. Bon. Mais un régime, autrement dit, qui arrive en fin de parcours idéologique, ne peut plus que persécuter, bon, au Québec et au Canada, c'est symboliquement, mais persécute symboliquement en transformant en paria ceux qui ne répètent plus les prières obligatoires qu'il faut prononcer pour évoluer dans l'espace public.
Écoute, je peux croire là, peut-être qu'un politicien s'emporte à un moment donné, là, la discussion bouille, etc., puis s'emporte, tu dis « je m'excuse », il refuse de s'excuser.
Ben, bien sûr.
Ça, c'est quelque chose, non, quand même, là.
Non, mais parce qu'il est fier. Non, mais le pire, c'est qu'il n'est fier, comme dirait l'autre. C'est-à-dire, il est tout fier d'avoir insulté son nationaliste québécois. Ça, c'est un peu, mais c'est un rituel aujourd'hui. Je vois ça dans les médias un peu partout. Quand on a une figure qui est désignée comme méchant, c'est à qui ira l'insulter. Puis là, il y a ensuite son titre de gloire. Je suis celui qui a insulté le méchant. Et ça, c'est leur manière d'exister. C'est une forme d'existence un peu parasitaire, tant qu'on viendra. Je n'existe n'existe qu'en parlant sans cesse de la personne que je déteste. Je n'existe qu'en mentionnant sans cesse la personne que je conspue. Je n'existe qu'en multipliant les attaques contre la personne que je n'aime pas. Puis ce qui rend encore plus fou ces zigotos-là, c'est quand on leur répond pas. Donc là, il en rajoute, confessant ainsi des signes de trouble de la personnalité qui nous amènera à les plaindre un peu.
Et je veux, écoute, lever mon chapeau parce que tu as reçu ce matin, Frédéric Lacroix, son calme. Son flegme. Ah ben, parce que lui, il pourrait mousser ça, là, en disant, regardez, me traiter là, puis j'exige, je demande des excuses, etc., etc. Du tout. Il dit, moi, j'ai pas demandé d'être traité comme ça, je ne voulais pas être à l'avant-plan, qu'il y ait des projecteurs sur moi. C'est vraiment mon corps défendant d'un calme incroyable.
Oui, absolument. Mais je le dis aussi parce que c'est un type, on le connaît depuis des années dans l'espace public, très calme, pondéré, flegmatique, et au fond lui-même, il aurait pas voulu du tout de cette controverse-là. Il aurait voulu qu'on parle de ses travaux et non pas de lui. Mais il se trouve que de temps en temps, un homme est projeté au cœur de la vie publique, bien malgré lui, parce que ce qu'il a à dire fracasse les, on pourrait dire, nos systèmes d'invisibilisation du réel. Et alors là, ben, l'intellectuel discret devient un personnage malgré lui. Et c'est ce qui est arrivé à Frédéric Lacroix cette semaine.
Alors, monsieur Francis Drouin, donc, le Pignon, François Pignon, comme tu dis, devrait s'excuser non seulement auprès de Frédéric Lacroix, mais aussi auprès de Statistique Canada, agence du gouvernement fédéral. Merci, Mathieu. À demain. Bonne journée.
Bye bye.